Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manielakidza en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous sommes jeudi 3 août 2017. Voici d'abord le sommaire. Les Rwandais aux urnes pour élire leur prochain président, Paul Kagame, est donné largement favori. Opération Ville Morte hier à Bukavu.
Nous sommes très satisfaits parce que la population a répondu présent. Ils sont restés à la maison.
Ernest Mouhero fera le bilan. À Brazzaville, le personnel soignant du CHU est en grève illimitée. C'est un reportage d'Ngwela Ngusu. Le Sud-Africain Stephen McGowan, enfin libre après 6 ans de captivité. Il était l'otage d'Acme. Et dans la page sportive, fin du suspense sur le transfert de Neymar au PSG. La star brésilienne sera demain à Paris. Restez branchés pour suivre également l'actualité économique peu après le journal. Au Rwanda, près de 7 millions d'électeurs sont attendus demain aux urnes sur tout le territoire national. Mais les Rwandais de la diaspora ont commencé à voter aujourd'hui, n'est-ce pas, Eki Abadou?
Quelques 44 000 Rwandais de la diaspora ont commencé leur vote. Paul Kagame s'est attelé à entretenir des liens très étroits avec cette diaspora appelée la sixième province du Rwanda. Le Rwanda Day, une manifestation régulièrement organisée par Kigali à l'étranger, est un exemple des nombreuses opérations de séduction. 3 candidatures en lice, mais seules les couleurs du Front patriotique rwandais au pouvoir sont visibles au pays des mille collines. Paul Kagame, qui tient le pays d'une main de fer, est donné largement favori. En 2010, il avait remporté les présidentielles avec 93% des voix. Il aura face à lui Franck Habineza du Parti démocratique vert et Philippe Payimana, un candidat indépendant. Ses opposants sont peu connus, mais permettent à l'opposition de sortir de l'ombre.
Nous reviendrons, Ekia, sur cette présidentielle dans la seconde partie de cette édition. Au moins 6 pêcheurs sont portés disparus dans un naufrage sur le lac Albert dans le nord-est de la RDC. 11 pêcheurs se trouvaient à bord d'une embarcation et 5 ont été sauvés. Les naufrages sont fréquents en RDC et se soldent souvent par des bilans très lourds. Le 16 juillet, 27 personnes sont mortes et 54 autres portées disparues sur la rivière Kasaï dans le sud-ouest du pays. Et en mars 2014, il y a eu 210 morts sur le lac Albert. Au Togo, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont manifesté aujourd'hui à Lomé pour exiger des réformes constitutionnelles. Ils exigent la limitation du nombre de mandats présidentiels et réclament une modification du mode de scrutin. Les autorités gambiennes ont retiré les passeports diplomatiques à l'ex-président Yahya Jammeh, son épouse et plusieurs de ses anciens ministres. Cette liste concerne 271 personnes qui n'ont juste plus d'immunité diplomatique. 40 personnes, dont 12 mineurs, devant la justice au Nigeria. Le gouvernement de l'État de Lagos les accuse d'homosexualité. Ce délit est passible de 14 ans de prison au Nigeria. Tous les accusés ont plaidé non coupables et sont désormais libérables sous caution en attendant leur procès. Ils doivent payer l'équivalent de 1150 euros. La crise provoquée par la contestation anglophone au Cameroun pourrait effacer l'élection présidentielle de 2018 selon International Crisis Group. Elle avait abouti à une coupure d'Internet pendant plus de 3 mois dans les 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce mouvement initié par des professeurs et des juristes revendique le retour au fédéralisme ou le séparatisme. Les Mauritaniens votent samedi dans un référendum constitutionnel. Ce projet prévoit la suppression de plusieurs institutions, y compris le Sénat. L'opposition radicale a jugé illégale cette consultation pour avoir été rejetée par la voie parlementaire. Les résultats seront annoncés en début de semaine prochaine. Nouvelle arrestation d'un opposant en Zambie. La police a interpellé Savior Chishimba, leader d'une petite formation politique très critique du pouvoir. Monsieur Chishimba sortait d'une intervention télévisée sur la chaîne privée Diamond TV. Les supporters du président avaient récemment appelé à son arrestation et à son inculpation pour diffamation contre le chef de l'État. L'otage sud-africain détenu depuis 6 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakmi, a été libéré. Pretoria a confirmé aujourd'hui cette information. Abdulrahman Dia.
Selon Maïti Koana Mashaban, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Stéphane McCowan a été libéré samedi. Elle précise que l'Afrique du Sud n'a payé aucune rançon en échange de sa libération qui fait suite à celle du Suédois Johan Gustafsson en juin. Le mois dernier, le Sud-Africain et 5 autres otages étaient apparus sur une vidéo publiée par les djihadistes juste avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Mali. M. McGowan, 42 ans, a été enlevé à Tombouctou le 25 novembre 2011. L'enlèvement a été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakmi. 3 autres personnes avaient été kidnappées en même temps que le Sud-Africain. Il s'agit d'un Néerlandais libéré en 2015 par les forces françaises, du Suédois Johan Gustafsson relâché fin juin cette année et un Allemand tué en tentant de résister à ses ravisseurs à Tombouctou. Une religieuse catholique colombienne, une femme suisse, un médecin australien et un Roumain sont toujours entre les mains de groupes armés opérant au Mali.
Restons en Afrique du Sud, où 2 fermiers blancs sont jugés pour kidnapping, agression et tentative de meurtre. Ils auraient tenté d'enfermer un ouvrier de ferme noire dans un cercueil. Une nouvelle vidéo de 2 minutes a suscité l'indignation dans le pays arc-en-ciel. Dossier migratoire, les navires étrangers interdits d'entrer dans les eaux libyennes. Décision du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et chef d'une force autoproclamée armée nationale libyenne. Haftar a donné ses directives à ses troupes en réaction à l'annonce par l'Italie de son intention de déployer des navires jusque dans les eaux nationales libyennes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN monte entre Washington et Téhéran. L'Iran dénonce les nouvelles sanctions américaines et menace de prendre des mesures de rétorsion. Le président Hassan Rouhani entame son second mandat. Morgan Gayek nous donne les détails.
Nous considérons que l'accord nucléaire a été violé et allons réagir de manière appropriée, a déclaré Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Selon lui, le Parlement va finaliser sa propre loi contre les États-Unis avec un projet pour renforcer le programme balistique iranien et la force Quds des gardiens de la révolution, armée d'élite du régime. C'est en réponse aux nouvelles sanctions imposées hier par le président Donald Trump qui concernent les gardiens de la révolution, le programme balistique, la situation des droits de l'homme et le soutien au Hezbollah libanais, considéré comme terroriste par Washington. L'Iran n'entretient plus de relations diplomatiques avec les États-Unis depuis 1980. Par ailleurs, le guide suprême Ali Khamenei a approuvé l'élection en mai de M. Hassan Rouhani, qui prêtera serment samedi devant le Parlement.
Morgan Guiriak. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré sur sa page Facebook que les nouvelles sanctions américaines constituaient une déclaration de guerre économique totale contre la Russie. D'après lui, elles marquent la fin des espoirs russes pour une amélioration des relations avec la nouvelle administration américaine. Monsieur Medvedev a estimé que Donald Trump a montré sa faiblesse en cédant au Congrès américain de manière humiliante. Le ministère russe de la Défense a annoncé une trêve dans la province de Homs, dans le centre du pays. C'est à la suite d'un accord entre l'armée russe et les rebelles syriens sur la création d'une 3e zone de d'escalade. Cette zone comprend 84 localités avec une population de plus de 247 000 habitants. Toujours en Syrie, quelques 8 000 réfugiés djihadistes évacués d'une région au Liban frontalière de la Syrie sont arrivés aujourd'hui dans une zone du centre du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reporté de 24 heures la séance inaugurale de l'Assemblée constituante rejetée par ses adversaires qui dénoncent la fraude. Le point avec Solange Nyamulisa.
Lors d'une réunion avec les 545 membres de l'Assemblée constituante élue dimanche, M. Maduro a déclaré que la séance inaugurale sera organisée dans la paix, dans la tranquillité et avec tout le protocole nécessaire vendredi prochain. La procureure générale, Luisa Ortega, a indiqué qu'elle a ouvert une enquête sur les suspicions de fraude lors de l'élection de cette Assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. L'entreprise chargée des opérations de vote dénonce une manipulation. L'opposition compte continuer à siéger au Parlement et a appelé à manifester pour dénoncer le caractère illégitime de la constituante. Le scrutin de dimanche a suscité un tollé au niveau international. L'Union européenne refuse de reconnaître la nouvelle assemblée. L'administration américaine condamne les actions de la dictature Maduro. Plus de 120 personnes ont été tuées en 4 mois de manifestations contre le président socialiste.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, suivez la Minute Éco signée Anastasie Toudiech.
L'économie sénégalaise a enregistré une légère perte de compétitivité de 0,5% durant le mois de mai 2017, comparativement au mois précédent, selon la direction de la prévision et des études économiques. À l'origine, l'effet de l'appréciation du franc CFA par rapport aux monnaies des pays partenaires. Une société chinoise va investir 53 milliards de francs CFA dans la production de noix de cajou à Loudima, au sud du Congo-Brazzaville. Le bail serait de 60 ans pour une exploitation de plus de 22 000 hectares. Un contrat a été signé mercredi à Brazzaville entre le ministre congolais de l'Agriculture Henri Djombo et Guo Li de la société chinoise CELTS Industrie SARL. Au Cameroun, la construction du marché de Deido à Douala nécessitera un investissement de 6 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la communauté urbaine de Douala au terme d'une délibération du conseil municipal. Après l'obtention de l'accord du financement, les travaux proprement dits devraient débuter en 2018. Le ministre des Ressources minières d'Afrique du Sud, Mose Benzizwane, a signé hier avec son hôte centrafricain Léopold Mboli Fatran un protocole d'accord pour renforcer la coopération minière entre les deux pays. Grâce à cet accord, la RCA bénéficiera de l'expertise sud-africaine dans l'exploitation et l'exploration minière. Avant la crise, les Sud-Africains avaient des entreprises minières en Centrafrique, comme De Beers, qui exploitait le diamant à l'est, et d'autres dans l'ouest investissaient dans l'exploration pétrolière.
Et sans transition, nous passons directement au sport avec Nicolas Pineau ce soir. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Neymar quitte officiellement Barcelone, n'est-ce pas Nico ?
Ah ouais, l'attaquant brésilien Neymar qui a formalisé son départ du FC Barcelone au terme d'une journée à suspense en payant directement au club les 222 millions d'euros de clauses libératoires prévues dans son contrat selon un communiqué du Barça. Ce paiement a eu lieu au terme d'une journée à suspense. Neymar devait normalement payer le montant de cette clause à la Ligue espagnole de football, elle-même chargée de transférer l'argent au club vendeur. Mais voilà, la Liga ce matin avait rejeté le chèque. Le club indique ce soir qu'il enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération. Le joueur de 25 ans reprend ainsi sa liberté pour pouvoir rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est désormais attendu à Paris vendredi selon des sources aéroportuaires. Le Paris Saint-Germain espère toujours présenter le joueur ce week-end pour la reprise de la Ligue.
Et le Burkina Faso a reçu le président de la Confédération de football.
Le président Armat est en visite au Burkina pour 3 jours. Au menu de sa visite, une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football. Écoutons Sita Sangaré, président de la Fédération Burkinabé de football.
Le président Armat aura l'occasion d'exposer cette nouvelle vision du football africain à notre comité exécutif. Et je pense que les membres fédéraux ne manqueront pas à leur tour de poser quelques questions au président de la CAF.
Peut-on analyser cette visite comme étant un signe de caution à la nouvelle équipe dirigeante de la FBF?
C'est vraiment un non-sens. Ceux qui avancent cette thèse, vraiment, ils se tombent lourdement. On a nullement besoin d'une quelconque caution venant d'où que ce soit. Le comité exécutif a été légitimement élu à une très large majorité.
Sita Sangaré, président de la FBF, il était joint par Yacouba Ouédraogo pour VOA Afrique.
Enfin, on termine avec ce nouvel abandon avant les championnats du monde d'athlétisme de Londres.
Le sprinteur canadien André De Grasse, touché aux ischio-jambiers, a déclaré forfait pour les mondiaux 2017 qui débute ce vendredi dans la capitale britannique. Considéré comme un potentiel successeur du Usain Bolt, futur retraité à l'issue de ces mondiaux, De Grasse est un sérieux prétendant au titre sur les deux distances du sprint. Cette année, De Grasse avait notamment signé un prodigieux 9 secondes 69 centièmes sur 100 mètres. C'était le 18 juin à Stockholm.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manidakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Sénégal, après 3 jours d'attente et une interminable guerre des chiffres, la coalition présidentielle a finalement gagné la circonscription de Dakar. Les législatives ont ainsi permis au pouvoir de reconquérir le bastion électoral le plus important du pays. Et avec cette défaite, Khalifa Sall, maire de Dakar, perd pour la première fois son leadership dans la capitale. Ses partisans sont quant à eux convaincus que les résultats ont été biaisés par le pouvoir avec la complicité de l'administration territoriale. À Dakar, la correspondance de Seydina Abagay.
La coalition Manko Taxaw au Sénégal dénonce vigoureusement la manipulation des suffrages par le régime. Pour Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar, il n'est pas question que leur coalition accepte cette conspiration.
Au niveau de Passé Assani, il y a eu manipulation de procès verbaux. Hier, la CERA de Dakar a fait convoquer tous les représentants de vote pour leur demander de signer de nouveaux PV. C'est flagrant ce qui s'est passé à Dakar. Donc ils ont maquillé des chiffres. Ces résultats sont sortis hier à 5h du matin, ou ce matin même, ce qui est quand même une première au Sénégal, si l'on sait que les résultats sont déjà depuis 2 jours.
Alioune Badara Diouf, député et mandataire de Benno Bokou Yakar, affirme que la commission de recensement des votes a procédé au dépouillement en présence de toutes les parties prenantes.
Contestation dans la salle, il n'y en a pas. Parce que lors du dépouillement, du début à la fin, depuis le dimanche, il n'y a pas eu de contestation de chiffres. Donc tout le monde est d'accord, les procès-verbaux, n'est-ce pas, sont pratiquement identiques, que ce soit les coalitions, la Sénat, n'est-ce pas, et l'administration. Ils ont détenu pratiquement les mêmes chiffres. Donc par rapport à ça, on n'a pas de problème. Dakar compte aujourd'hui 19 communes. Et Benno Bokou Yakar a pu gagner les 12 communes.
Ces allégations sont réfutées par Moussa Taï, qui indique que la coalition Manko Taxaw au Sénégal compte utiliser tous les recours possibles pour avoir gain de cause.
Naturellement, la coalition Manko Taxaw au Sénégal réfute ces résultats-là. Nous ne les reconnaissons pas parce que nous pensons qu'ils sont truqués. C'est une fraude de la coalition Benno Bokou Yakar. Et nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles. Non seulement nous allons attaquer la décision au niveau de la Cour d'appel, et même demain au niveau du Conseil constitutionnel, mais également politiquement, nous prendrons toutes nos dispositions pour nous opposer à cette forfaiture.
Après plusieurs jours d'attente, les résultats des élections législatives du 30 juillet 2017 ont consacré la victoire de la coalition présidentielle dans 42 des 45 départements que compte le pays. À Dakar, l'opposition fidèle au maire de la capitale conteste les chiffres et accuse le pouvoir de hold-up électoral. Les partisans de Khalifa Sall annoncent une bataille devant les hautes juridictions sénégalaises. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Rendez-vous électoral demain au pays de Mille Collines, le Rwanda. L'un des partis de l'opposition, le Green Party, le Parti Vert, affiche de l'optimisme pour une démocratie dans le futur. Son candidat, Frank Habineza, veut un changement démocratique et fermer toutes les prisons illégales, ainsi que faire participer les citoyens ordinaires à la gestion du pays. 3 candidats, dont le président sortant Paul Kagame, au pouvoir depuis avril 2000, briguent la présidentielle de demain. Et Charlie Kasereka a rencontré le candidat Frank Habineza. Voici son reportage.
Et quelle aujourd'hui est la force de ces partis politiques qui n'a eu l'autorisation de fonctionner il y a seulement 4 ans et qui fait face à un candidat très populaire?
Les partis démocratiques veulent devenir un grand parti, mais on a commencé en 2009, c'était difficile pour notre parti, on a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'emprisonnements. Moi aussi j'étais obligé d'aller en exil en Suède qui a resté là-bas pour 2 ans. Nous avons pour maintenant 2 millions de membres et maintenant c'est notre première élection.
Les partis démocratiques verts s'est heurté à des obstacles pendant la campagne électorale. Même des espaces publics étaient d'avance occupés par les partis au pouvoir, sans aussi oublier les moyens financiers.
Les quatre premiers jours, c'était difficile parce que les autorités locales et nous, ils refusaient les faits pour venir. Mais aussi, elles nous refusaient les endroits et elles nous envoyaient à les cimetières. Et mais aussi, nous n'avons pas les mêmes moyens de financement comme les partis au pouvoir. Les partis au pouvoir, ils étaient au pouvoir depuis 23 ans.
Abineza a un projet de société qu'il compte mettre en place malgré les peu de chances qu'il a pour être élu face à Kagame.
On va aussi faire un tribunal spécial pour voir si c'est possible de libérer les prisonniers politiques. On va aussi fermer tous les prisons illégales au Rwanda. On va faire beaucoup de choses pour libérer les peuples rwandais.
Les votes, c'est pour ce vendredi 4 août. Les partis verts souhaitent une élection libre et transparente, sinon la justice va trancher. Plus de 500 observateurs de ces partis seront envoyés dans différents districts et villes du Rwanda.
Oui, nous disons que si les élections se passent au milieu de free and fair elections, on va accepter les résultats. Mais si il y a des choses qui n'est pas transparentes, on ne peut pas accepter. On peut aller au tribunal. Nous sommes dans le processus d'envoyer notre observateur de parti dans les districts pour observer les élections.
Première fois au Rwanda, un parti d'opposition participe à une élection. Avec cette autorisation suivie par la validation de sa candidature, Franck pense que c'est le début d'un processus démocratique ici au Rwanda.
Oui, la démocratie, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Et tout ça, même aussi les élections, est signe de la démocratie. On a fait tout pour être candidat. L'objectif démocratique a commencé au Rwanda.
Quelques 6,9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi 4 août pour une élection présidentielle promise au président sortant, grand favori Paul Kagame, qui dirige le Rwanda depuis plus de deux décennies. Charlie Kasereka depuis Kigali pour la VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Dans le géant des Grands Lacs, la RDC, la population de Bukavu a partiellement observé la journée ville morte et plusieurs activités étaient paralysées avant midi. Mais la ville a peu à peu commencé à reprendre ses couleurs et sa vivacité dans le reste de la journée. La coalition Société Civile, acteurs politiques de l'opposition et mouvement citoyen du Sud Kivu, a organisé cette protestation pour dénoncer les violences policières. Des précisions avec Ernest Muhiru.
Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées dans la ville de Bukavu ce 2 août. Bien que les transports en commun et la circulation des piétons étaient fluides, la plupart des magasins, boutiques, institutions de microfinance et banques sont restés fermés. L'administration publique a fonctionné normalement, à l'exception de la direction provinciale des mobilisations et encadrement des recettes, dont les agents sont en grève. Le grand marché des Kadutu, qui draine le plus grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, n'a pas ouvert, mais d'autres petits marchés du centre-ville ont fonctionné presque normalement, de même que certaines stations qui vendent du carburant. À titre individuel, plus d'un Bukavien a jugé bon de ne pas travailler. Un motif de satisfaction pour Patient Bachombe, président du bureau des coordinations de la société civile.
Nous sommes très satisfaits parce que la population a répondu présent. Ils sont restés à la maison afin de montrer que réellement nous voulons les élections, nous voulons un calendrier. Et nous nous insurgeons contre cette manière d'agir des autorités politiques et administratives qui veulent restreindre le droit des manifestants. Et c'est un message que nous lançons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et nous exigeons qu'on nous laisse aller déposer notre mémorandum à la CENI. C'est notre droit.
Pour le directeur des cabinets du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Josué Bodji, toute revendication est légitime en démocratie, mais une journée ville morte est un manque à gagner, aussi bien pour l'État que la société civile.
Le sentiment d'indignation exprimé à travers la ville morte, je pense que c'est un message suffisant. Et que des mesures seront prises pour que, lors d'autres manifestations, on puisse éviter ce genre de situation. Mais je pense que des actions pareilles, c'est un manque à gagner pour tout le monde. D'abord, pour les commerçants, parce que c'est eux d'abord qui n'ont pas vendu. C'est une journée de perdu aussi en termes des taxes qu'on devait aller recouvrer chez les différents commerçants. Ça veut dire que même les particuliers qui avaient des courses à faire, face aux achats, tout ça s'est bloqué. Donc c'est pour cela que ce n'est pas la voie la mieux usitée pour manifester son indignation.
L'après-midi, la ville s'anime peu à peu. Les besoins de subsistance pour une population qui a vu sa monnaie perdre de moitié son pouvoir d'achat obligent les moins téméraires à vaquer à leurs occupations pour trouver de quoi manger les soirs. Et comment en sommes-nous arrivés à cette journée ville morte? Amos Bissimoua du mouvement Réveil des Indignés explique.
Quand nous avons eu organisé une marche pacifique réclamant la publication du calendrier électoral, les autorités de la ville, même si nous avons y adressé une lettre d'information comme le prévoit notre constitution, elles ont envoyé des policiers lourdement armés qui ont commencé à nous tirer des bombes lacrymogènes mais aussi des balles réelles, causant ainsi plus de 11 blessés graves, ce qui nous a poussé d'organiser cette journée ville morte aujourd'hui pour voir notre indignation. Nous n'allons pas désarmer malgré ce que nous avons connu comme répression.
La coalition société civile, acteurs politiques de l'opposition et mouvements citoyens suspend toute collaboration avec les autorités provinciales et municipales. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Cap sur le Congo avant de nous quitter. Des agents du centre hospitalo-universitaire de Brazzaville poursuivent leur grève au grand désarroi des malades privés d'assistance médicale. Ce personnel soignant réclame actuellement 3 mois de salaire impayé. Aucune suite n'a été réservée à leurs revendications. Notre correspondant Nguela Ngoussou s'est rendu à cet hôpital.
Ce triste spectacle peut devenir le quotidien au CHU de Brazzaville si on y prend garde. Depuis le 1er août, les agents du plus grand établissement hospitalier du Congo observent une grève pour réclamer 3 mois de salaire impayé.
Non, aujourd'hui on ne reçoit pas. Aujourd'hui on ne reçoit pas, c'est fermé. Parce que nous sommes là, debout là, bon, comme il n'y a pas de salaire, nous sommes en grève donc...
C'est fermé.
Dans les sombres couloirs du CHU, quelques rares silhouettes en blouse blanche, des bureaux déserts, le service des urgences fermé. Même au bloc d'accouchement, le personnel n'est pas disponible. Les agents qui arrivent au lieu du travail font du service minimum.
Quand même, on a fait le service minimum. Donc, il n'y a pas assez de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnels qui ne sont pas venus. Donc, on est au nombre de 2 par équipe dans les services. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a trop de travail. Beaucoup de malades dans les services, mais il y a 2 par équipe.
Et les malades, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Cette femme explique en Lingala que les malades décèdent dans la nuit, faute d'assistance médicale. Arrivé sur un fauteuil roulant, un autre malade est venu enlever le plâtre de son pied. Mais personne pour le recevoir. Il est tout triste sur le perron de l'hôpital.
Je suis perdu, désespéré parce que je dois reprendre le boulot lundi prochain. Et on ne sait pas quand est-ce que va finir leur grève. On attend. Ouais, je suis pris en otage, hein, carrément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Bon, là, on m'a dit d'attendre carrément la fin de la grève. C'est vraiment malheureux.
Le responsable syndical des médecins du CHU, Dr Albert Ngatse Oko, revient sur les revendications des travailleurs.
Non, rien d'autre que le salaire. Bon, je crois que le pays connaît certainement des difficultés au niveau des finances, si bien que les travailleurs ont déjà un certain nombre de mois sans être payés et ça fait quand même coincer. C'est pour cela qu'ils sont excités, énervés. Ils ont essayé de maintenir sans pouvoir le contenir. Évidemment, on est arrivé à la date butoir.
Sur les 3 mois de salaire dus, les agents sont prêts à en accepter 2 avant de reprendre le service. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Lunamira Gahima. À la console, Zuber Altaeb. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez-en de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.